Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, je reçois la fille de D'Artagnan. Eh ouais, le panache et la fougue sont inscrits dans son ADN. Elle est libre, hors cadre, passionnée, bien sûr. Dans la famille Tapie, on sait porter la voix. Elle fait chanter la sienne. Sophie Tapie sort une édition augmentée de son dernier album aux influences pop 80s, rebaptisé pour la circonstance 1988 renaît de ses cendres. On va donc passer une heure avec une jeune femme de caractère à qui son père a appris à ne renoncer à rien. Bonjour Sophie Tapie.
Bonjour.
Bon Sophie Tapie, j'ai dit je reçois la fille de D'Artagnan. J'aurais pu dire la fille de Robin des Bois.
Exactement.
Hein, ou de Mandrin. Vous n'êtes pas contre la formule.
Pas du tout.
Laquelle vous plaît le mieux ? D'Artagnan, Robin des Bois ?
Robin des Bois de loin.
C'est vrai ?
Oui, parce que ça me rappelle une histoire, une vraie histoire vécue de mes parents, de mon père en particulier, qui m'avait raconté il y a quelques années, que j'avais découvert tellement une vingtaine d'années après les faits, on va dire. C'était quand mon père avait embobiné Bocassa. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire.
Ah bah, allez, ça commence fort.
Incroyable.
Ah racontez-nous. Ouais, bah,
écoutez, on est dedans, on n'est pas. Hein. Mon père partait avec ma mère dans un pays et il avait, dans les journaux, il avait lu que des horreurs sur le président Bokassa. Et du coup, eh ben, il s'était dit qu'il allait partir carrément voir Bokassa en se prétendant être envoyé par le président français Giscard d'Estaing, ce qui était faux. Et il l'avait persuadé de lui céder tous ses titres de propriété de château français à son nom, histoire que ces biens-là ne soient pas saisis, ce qui était une énorme fraude, évidemment.
Et il avait réussi à convaincre Bokassa de ça.
Il avait réussi à convaincre Bokassa de ça. Et suite à ça, avec
les
papiers,
paternel.
Il était parti à New York et il avait tout donné à l'UNICEF.
Voilà. Non, mais c'est magnifique.
Voilà
cette
pourquoi j'aime. Je préfère la formule de Robin des Bois.
Bon, alors je reprends le chapeau de présentation. Je reçois aujourd'hui la fille, mais vraiment la fille de Robin des Bois. Alors, Sophie Tapie. Votre petite enfance, elle s'est achevée, on va dire, au point de rupture des années vraiment glorieuses de votre père. Vous n'avez donc pas connu ce que nous, on appelait l'époque de la tapimania. En revanche, tous les souvenirs que vous avez à partir de l'âge de 7 ans sont ceux en fait, d'un père qui part en guerre contre l'État, qui part en guerre contre la justice, des guerres terribles, sans fin. J'imagine qu'on ne grandit pas comme les autres enfants dans un contexte pareil.
Non, c'est sûr qu'on ne grandit pas du tout de la même manière. Même petite, même pendant les années un peu glorieuses qu'on a eues, je n'ai pas eu une enfance normale. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas tous les jours qu'on voit un enfant qui grandit sur un bateau, qui a des gardes du corps, que les nounous, prétendus nounous, sont en fait des flics.
Il vous fallait des gardes du corps.
Bah, apparemment, moi, je n'ai pas de souvenirs de tout ça, malheureusement. Moi, mes souvenirs commencent quand c'est un peu moins fun. Mais disons que, très honnêtement, je pense que s'il fallait réécrire mon histoire, je la réécrirais exactement de la même manière. Parce que je pense que d'être un peu secoué dès l'enfance, ça forge pour un avenir plus facile. Mmh. Je le vois autour de moi, les gens qui n'ont pas vécu de drame ou qui n'ont pas vécu de choses relativement compliquées dans leur vie avant l'âge de 30 ou 40 ans ont beaucoup plus de mal à se remettre que des gens qui ont vécu des traumatismes plus tôt dans l'enfance.
Alors, projeter une carrière de chanteuse quand on est doué pour le chant, ce qui est votre cas, c'est une option naturelle quand on a des parents anonymes. Vous, effectivement, vous êtes douée pour le chant et vous êtes la fille de Bernard Tapie. J'ai pas dit « mais hein, », j'ai dit « et ». Alors ça, les médias, ils aiment pas trop, hein, ça
ils se régale. Ils se régalent. Mais du coup, moi, je me régale aussi. Parce que, écoutez, moi, c'est simple. Hein. J'avais envie depuis toujours de faire ça. J'avais envie d'être auteur, d'être compositeur, d'écrire pour moi, d'écrire pour les autres. J'avais envie d'être devant une caméra. J'avais envie de faire du cinéma. J'avais envie de monter sur scène. J'ai fait du théâtre. J'avais envie d'être le centre de l'attention depuis que j'étais toute petite. Et mes parents ont eu une très bonne réaction. C'était de dire, ah, ok, c'est cool de vouloir faire ça, mais maintenant, il faut se former. Parce que l'adage qui dit qu'on est artiste, oui, je suis d'accord, mais c'est un métier comme un autre et je pense qu'il s'apprend. Alors, il y a certains grands artistes, c'est la vie qui leur apprend à devenir artiste. Et puis, moi, ça a été le cas, je me suis formée dans une école.
Et on va évoquer ça tout à l'heure, puisque vous êtes partie à Londres pour ça. Mais à quel âge, vraiment, avez-vous deviné qu'il vous faudrait, justement, sans doute partir loin pour faire vos preuves et vous affranchir de tous les préjugés ? Ce que vous avez fait, d'ailleurs, en vous installant au Canada pour votre premier album. Ouais. Vous ne l'avez pas fait en France. Mais vous avez toujours eu envie de chanter. Mais le fait de se dire, bon, je vais peut-être
en fait, apprendre le métier d'artiste ailleurs, hors des frontières. Mm-hmm. Ça, vous l'avez décidé, en fait,
très tôt, enfin, adolescente.
Au cours de l'adolescence?
Ah, ouais, adolescente, parce que très tôt, j'ai écrit, j'ai composé, donc j'avais mon petit bagage. Bon, c'était forcément pas du Baudelaire à l'époque, hein, parce qu'à 15 ans, on raconte pas la même chose que quand on en a 30, 35, 40, 50. Et que je pense que l'écriture, c'est comme le vin, ça se bonifie avec l'âge. Mais j'ai vite compris, enfin, on a vite compris avec ma famille que ça allait être un peu compliqué. Et du coup, j'avais besoin de faire mes preuves. Et j'avais besoin de me prouver à moi, tout d'abord, avant de prouver à qui que ce soit d'autre, que j'étais bien faite pour ce métier et que ce n'était pas une erreur. Donc, je me suis lancé un challenge, moi, toute seule, de vouloir partir en Angleterre pour avoir un choix complètement, une décision impartiale de leur part et de pouvoir me juger vraiment de manière complètement normale, sans préjugés, sans rien, quoi.
Sophie Tapie, je me souviens que vous êtes allée assez loin dans la deuxième saison de The Voice. Donc, il semblait évident que les majeures compagnies vous feraient les yeux doux ici en France. Mais la réalité, ça a été l'inverse. Il paraît que les majeures ont refusé d'écouter vos démos. Et c'est donc un label québécois qui vous a repéré, lui.
Ah, ça a été plus loin que ça. Je suis sortie donc en quart de finale derrière.
C'est magnifique d'aller jusqu'en quart de finale.
Ah ouais, mais c'est.
C'est-à-dire que vous avez traversé les battles. Vous avez été donc à la fois soutenue par des coachs. Vous êtes allée au live. Le public a voté pour vous. Là, il n'y a pas de je m'appelle Tapie ou je m'appelle pas Tapie.
Non, donc je sors après les lives et puis j'étais un peu dégoûtée parce que c'était la tournée et puis finalement le destin fait bien les choses parce que. En une soirée, je suis passée de « Tu ne fais pas la tournée de The Voice » à « Tu fais la première partie de Johnny Hallyday ». Donc forcément, finalement, j'avais gagné encore plus à ne pas faire la tournée de The Voice.
C'est-à-dire que Johnny a dit « Je veux qu'elle chante avec moi ».
Oui, il a contacté, il me semble que c'était le directeur de casting, Bruno Berberes, qui est venu me chercher dans la loge en me disant « J'ai une super nouvelle pour toi, tu ne fais pas la tournée de The Voice, mais Johnny Hallyday se propose que tu fasses la première partie de ce tournée ».
Vous aviez chanté un titre de Johnny.
Je sors sur un titre de Johnny. Je sors sur l'envie.
Incroyable. Ouais.
Et puis le lendemain de cette donc j'ai le coup de fil le soir même et puis le lendemain j'apprends médusée par The Voice qui sait plus où se mettre parce qu'il y a carrément un édito politique sur France Inter en expliquant que j'avais triché donc à The Voice. Donc je savais pas qu'on pouvait tricher sans gagner. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris ce jour-là. Et puis c'est des histoires qui m'ont collé à la peau très très longtemps parce que quand on tape votre nom sur Google et que le premier truc qui sort pendant des années, c'est tricherie. C'est quand même.
Bon, ce que nous, on garde en mémoire, c'est que vous chantez l'envie de Johnny.
Exactement.
Et il appelle le soir même en disant
exactement.
Je veux absolument qu'elle assure ma première partie.
Exactement.
Ça, c'est royal. Mais parlons de votre musique à vous, Sophie Tapie. Alors, à sa sortie, à l'automne dernier, votre album avait pour titre 1988. Voilà, simplement. Mais vous nous proposez aujourd'hui une édition augmentée, donc avec 4 nouveaux titres, et vous l'avez rebaptisé 1988, Renaître ses cendres. C'est mystérieux, il faut nous expliquer.
Alors j'ai un titre qui s'appelle Le Phénix, dans lequel il y a cette phrase. Comme le phénix, renaître ses cendres. Et quand j'ai sorti la première édition de 1988, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Mon père est décédé 3 semaines après la sortie de mon album. Donc, sachant que je suis quelqu'un d'assez honnête et assez authentique, je ne me sentais pas de faire de la promo morbide, aller faire des plateaux télé alors que je venais d'enterrer mon père. Donc, ma manière à moi de processer quand il m'arrive des choses, c'est d'écrire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que grâce à ma maison de disques qui me suit vraiment dans tous mes choix et qui ne remet jamais en question mes choix de cœur, m'a proposé de faire un séminaire dans lequel je pouvais m'exprimer, où je pouvais composer, réécrire, recomposer. Et du coup, est sorti 4 titres nouveaux avec une espèce de façon de dire « j'ai pas eu le temps de défendre la première version, donc j'en propose une deuxième ». Et puis, rien n'est jamais mort, tout renaît de ses cendres.
Bien sûr. Mais la chanson Le Phénix, Sophie Tapie, qui est donc un hommage à votre père, elle a retenti dans la cathédrale de la Major à Marseille, interprétée par une chorale pendant les obsèques de votre père. Ça a dû être un moment d'une puissance inouïe.
Alors, j'étais très gênée parce que comment expliquer ? C'est une discussion très longue et qu'on a pris ensemble avec ma famille parce que c'était vraiment un titre que mon père adorait parce qu'il se retrouvait dedans et c'est là où j'avais l'impression d'avoir réussi mon pari parce que ce texte, je l'ai écrit c'est la manière dont il parlerait de lui.
Oui, c'est ça.
Je parle à la première personne, donc je me permets de parler à sa place. Je me mets dans ses pompes à lui.
Mais en même temps, c'est pas vous qui interprétiez donc la chanson pendant les obsèques. C'est une chorale, pas moi, donc mais il y avait ce retrait, cette pudeur.
Il y avait cette pudeur, mais d'un autre côté, j'avais très peur. Je suis toujours très prudente dans mes choix. Donc j'avais peur que ce soit vu comme justement de la publicité morbide et je le voulais pas du tout. Et je vous assure, vous serez surprise. Mais voilà, ça a été une décision prise en commun avec ma famille. Ils m'ont dit, c'est hors de question qu'on ne la mette pas. C'était sa chanson... une de ses chansons préférées que j'ai pu écrire. Et ça lui aurait tenu à cœur qu'elle soit jouée et qu'elle soit chantée par une chorale à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a pris le parti pris de dire oui, on l'a fait.
Bien sûr. Et lorsque vous dites que votre père, en fait, aurait pu signer effectivement ce texte, comme si lui avait guidé votre main et avait couché sur le papier les mots, dans cette chanson, il y a ces phrases. C'est dur d'aller toucher le ciel quand on décolle d'aussi bas. L'histoire était un peu trop belle. Ça, les gens n'aiment pas.
Oui, je trouve que ça résume très bien sa vie. Ça résume bien sa vie.
Votre père, Bernard Tapie, d'ailleurs a passé la moitié de sa vie à ressusciter. Franz-Olivier Gisbert le décrit même comme un professionnel de la résurrection, couturé de partout, mais se relevant toujours. Il y a tout juste 2 ans, votre père rêvait par exemple de remonter sur scène pour jouer la pièce « Vol au-dessus d'un nid de coucou » de Dale Wasserman. Vous aussi, vous avez cru, j'ai envie de dire presque, jusqu'au bout, qu'il pourrait à nouveau parvenir à feinter le destin ?
Non, malheureusement non. J'ai un lien malheureusement trop étroit avec le cancer déjà. Donc j'ai perdu ma meilleure amie a perdu son frère à 27 ans d'un cancer. Et dans les 6 derniers mois de sa vie, j'ai revu mon amie, quoi. Je l'ai vu. Ça ronge le cancer. Je ne sais pas comment expliquer. Ça ronge de l'intérieur. On a l'impression que la personne rétrécit de l'intérieur. Et quand j'ai vu que ça commençait à partir comme ça, j'avais compris. Non, je ne me faisais malheureusement pas d'idée.
Mais il fallait le laisser espérer.
Exactement. On ne peut pas dire à quelqu'un qui se bat, tu te bats pour rien. C'est idiot. Et puis, il a quand même réussi encore une fois à battre un record. Quand le docteur Spano le prend comme patient il y a 4 ans, il lui donnait 2 ans. Il a tenu 4 ans. Donc, Il a encore battu un record à sa manière.
Sophie Tapie, vous avez grandi à Marseille, où votre père, en 93, avait ramené avec l'OM le titre suprême de champion d'Europe en arrachant la coupe au Milan AC de Berlusconi. Bon, je précise que jamais un club français n'avait gagné la Coupe d'Europe des champions. C'est dire si votre papa avec l'OM était devenu une icône sur les terres marseillaises. Vous n'étiez en fait qu'une enfant à l'époque, mais j'imagine que vous deviez bien sentir que votre père avait une dimension très, très particulière par rapport à celle des pères de vos copines de classe.
Ah bah c'est sûr, surtout quand je vivais à Marseille.
Voilà.
Ah oui, bah évidemment, j'étais une petite privilégiée.
Vous étiez la fille du seigneur de Marseille.
J'étais la fille du boss, comme on l'appelle encore aujourd'hui à Marseille. Mais c'était génial parce que j'avais l'impression que je connaissais tout le monde du coup. Alors même des gens que je ne connaissais pas, ils avaient une espèce de familiarité, mais dans le bon sens, de gentillesse, d'affection pour moi. Et j'avais l'impression d'avoir 257 tantes et oncles.
Voilà, c'est ça.
Mais vraiment, c'était juste une grande famille. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ma ville, Marseille.
Alors, c'était à la fois joyeux et en même temps, ça devait être parfois, lors des débordements, parfois effrayant, non, pour l'enfant que vous étiez ?
J'ai aucun souvenir d'avoir été effrayé par les Marseillais une seule fois dans ma vie. Jamais. Et quand je vais au match, je vais dans les virages, en général, avec les South Winners.
Voilà, là où l'ambiance est vraiment chaude.
Là où ça bouge vraiment.
Là où
quoi.
Ça bouge.
Là où on est au cœur du sang de l'artère de Marseille.
Voilà, et elle reprend l'accent pour nous dire ça, Sophie. Bon, Sophie Tapie, trouver sa place face à quelqu'un qui prend toute la place, c'est pas simple. Mais vous pensez que peut-être c'était plus compliqué encore pour vos frères, entre admiration et confrontation masculine. C'était plus difficile pour les garçons. Parce que vous êtes la petite dernière. Mmh. Il y a une décennie d'écart avec votre dernier frère.
Mmh. Plus même. On a quasiment 14 ans.
Quasiment 14 ans d'écart. Bon, c'était peut-être un peu plus compliqué de se trouver pour eux, non ?
Bah, en fait, tout ça, je ne l'ai pas vécu. Encore une fois, j'imagine qu'il y a un concours d'égo quand on est un homme face à un homme, qu'on n'a pas forcément quand on est une femme face à un homme. Mais en revanche, je trouve que c'est la meilleure école justement de trouver sa place quand il n'y en a pas. Donc, une fois qu'on a réussi à faire ça, je pense qu'on peut trouver sa place à peu près partout.
Vous dites, mon père, c'était le capitaine, mais le bateau, c'était ma mère.
Toujours. Ah ouais, c'est la louve alpha de l'ombre. C'est elle, la chef, en fait. C'était
vraiment
toujours elle qui avait le dernier mot, mais surtout, jusqu'au bout.
Bon, alors, parlons musique. J'aimerais savoir, Sophie Tapie, comment Johnny Cash est entré dans votre vie d'enfant au point que vous vouliez plus tard, comme lui, chanter de la country. Pourquoi Johnny Cash?
Parce que quand vous aviez 10 ans,
on ne peut pas dire que Johnny Cash passait régulièrement en radio. Hein.
Moi-même, je ne sais même pas comment ça m'est venu, Johnny Cash, mais il y avait c'est The Man in Black, quoi. C'est l'homme en noir. Il y avait une espèce d'obscurité, c'était sombre comme environnement. J'aimais bien. Moi, j'aime bien les...
Côté rebelle.
C'était pas vraiment un rebelle, hein, c'était le mec qui chantait dans les prisons, quoi. Parce que personne ne voulait de lui, il avait dit bah, c'est pas grave, je vais aller chanter dans les prisons, au moins je vais trouver mon public. Et il a trouvé son public comme ça. Puis au fur et à mesure, ça a explosé pour lui. Mais pour moi, c'était l'exemple du mec qui rentrait pas dans les cases. On savait rien de lui, quoi. Il partageait les scènes avec Elvis Presley. Et il y en avait un qui était tellement solaire et l'autre qui était tellement sombre. Et entre le soleil et la lune, j'ai préféré la lune.
Vous avez
préféré
la lune.
Ouais.
Bon, et ça, il paraît que vous en avez parlé à Eddie Barclay, qui était un ami de la famille.
Ouais.
Vous lui avez dit « Je rêve de chanter ».
Ouais.
Tu penses que ça sera possible? Faut faire comment?
J'étais petite, ouais. Et en fait, je l'appelais Tonton Musique et il s'occupait vraiment super bien de moi. Et quand mes parents, je sais pas, partaient en l'après-midi, ils me gardaient. Et c'était une des premières personnes à qui j'ai dit j'aimerais vraiment faire de la musique, j'aimerais chanter, j'aimerais écrire mes textes, écrire ma musique, jouer sur mon piano, jouer de la guitare. Enfin, c'était vraiment depuis petite, j'avais vraiment envie de faire ce métier d'artiste. Et il m'avait répondu. Je sais que tu es petite, mais il faut que tu te rappelles de cette phrase parce qu'elle va t'apporter beaucoup de choses dans ta vie future. Qu'on parle de toi, de bien ou en mal, du moment qu'on parle de toi, c'est que tu existes. Et garde toujours ça en tête.
Voilà. Cocteau avait dit quelque chose d'à peu près similaire. Hein.
J'ai toujours gardé ça en tête. Toujours.
Ce que l'on décrit en toi comme un défaut, cultive-le justement. Mmh. C'est toi.
C'est ça.
Alors, continuons de dérouler le fil des souvenirs. Sophie Tapie, quand votre père a commencé à traverser des tempêtes judiciaires, la famille a quitté Marseille pour revenir vivre à Paris. Mais vous n'êtes pas du tout faite pour être parisienne, vous?
Ah, c'était compliqué.
Dit-elle pudiquement.
Ouais, c'était pas la joie à ce moment-là, mais encore une fois, je me dis qu'il fallait que ça se passe pour que je devienne comme je suis aujourd'hui. Donc, je regarde ça avec... Enfin, je regarde pas la petite fille en me disant « Oh, la pauvre, franchement, elle en a chié ». Je me dis juste « Ah bah voilà, regarde ce qui peut t'atteindre aujourd'hui, pas grand-chose ». Alors que je suis quelqu'un de très sensible. Et je pense que c'est grâce à toute cette période-là. Donc,
bien sûr.
S'il fallait la revivre, je referais exactement la même chose.
À l'âge de 16 ans, Sophie Tapie, vous quittez Paris et vous intégrez à Londres The Arts Educational School, une école spécialisée dans les arts de la scène où l'on travaille aussi bien le chant au travers des comédies musicales que le théâtre avec par exemple des textes de Shakespeare. J'imagine que ça a dû être une période très très excitante, non ?
C'était effrayant et excitant à la fois.
Pourquoi effrayant ?
Effrayant parce que je ne parlais pas un mot d'anglais à part Brian is in the kitchen qu'on nous apprend en 6e, quoi, très honnêtement. Parce que c'était un challenge, j'étais seule, j'avais 16 ans, donc je partais vraiment tôt vers un peu l'inconnu. Et effrayant parce que j'avais très très peur de l'échec. Je m'étais donné une ligne de mire qui était soit j'arrive à rentrer dans cette école et c'est que j'ai peut-être une chance de faire ce métier, soit je rentre pas dans cette école et c'est mort et il faut que je me trouve autre chose à faire dans la vie. Donc j'avais pas mal de pression en allant là-bas. Mais c'était drôle parce que moi, j'ai une anecdote, c'est qu'on parlait tellement pas anglais avec ma mère que une fois que j'ai passé mes auditions de théâtre, de chant et de danse, et je vous raconte pas l'audition de danse parce que je suis à peu près souple comme un pylône électrique, la directrice de l'école nous a dit « Ok, darling, so why do you want to come in London ?» Donc, pourquoi, ma chérie, tu veux venir à Londres? Et ma mère avait répondu « With the plane, Heathrow ». Donc, avec l'avion, par Heathrow. Donc, elle avait absolument pas compris la question. Donc, elle avait répondu complètement à côté.
Voilà.
Et elle était là, toute fière d'avoir répondu. Moi, je ne pensais pas du tout qu'elle avait répondu à côté, on ne comprenait rien. Et la directrice, mais elle s'était fissurée et elle avait marqué, je pense qu'elle avait marqué « She doesn't speak a word of English ». Genre, elle ne parle pas un putain de mot d'anglais, ça va être très compliqué.
Bon, et ben en tout cas, maintenant... 20 sur 20. Est-ce que vous pouviez échapper au pensionnat de cette école pour vous balader un petit peu dans Londres à l'époque? Pas trop.
J'y ai cru deux jours.
Deux jours.
Ouais.
Mais c'était strict comme les pensionnats anglais
c'était avec
de la fin du 19e?
pas de la fin 19e, mais genre encore les pensionnats anglais et américains d'aujourd'hui, c'est-à-dire uniforme obligatoire. Évidemment, j'étais complètement contre au départ. Et puis finalement, je peux vous dire que le week-end, on n'était pas obligé de les mettre et on les mettait quand même tellement on était fiers de faire partie de cette école. C'était comme si on sortait d'Harry Potter et qu'on était avec l'uniforme Gryffondor, quoi. C'était la classe de se balader avec ça dans les rues de Londres.
Et alors, en chant, en fait, ce que vous retenez des cours enseignés là-bas, qu'est-ce qui vous a fait le plus progresser ?
Le challenge face aux autres. Parce que tous les mois, il y avait des battles, quoi, enfin, des auditions où on a fait 3 spectacles, un par trimestre, où les places étaient chères pour être dans les personnages principaux. Et du coup, il fallait se bagarrer pour avoir un siège, quoi.
Mais alors, Sophie Tapie, pourquoi, en sortant de cette école, avez-vous commencé à Paris par le théâtre et non par le chant ?
Bah parce que j'ai essayé par le chant et je pense qu'on est capable de faire 2 choses à la fois. Donc moi, j'avançais sur ma musique,
ouais.
mais j'ai passé un casting et j'ai été prise tout de suite. Donc,
vous avez passé un casting, vous avez été prise tout de suite. Et alors, où l'anecdote est franchement savoureuse, c'est que pour la pièce de boulevard culte, baptisé Oscar, et qui avait été créé avec Louis de Funès, c'est vous, Sophie Tapie, qui avez pistonné, oui, paraît-il, votre papa en suggérant son nom, en mettant en scène, oui, votre père qui rêvait à nouveau de faire du théâtre.
Oui, oui. Ouais. J'avais joué la pièce pendant 1 an et demi avec Bernard Farcy, Chantal Latsou, David Sardou, enfin un gros cast, quoi, Vincent, oui, Moscato.
Oui.
Et puis au bout de 2 ans, comme dans toutes les grosses pièces de théâtre qui marchaient à l'époque très très bien, elle se scindait en 2. Il y avait une partie de la troupe qui partait en tournée et l'autre partie qui faisait soit une résidence, si la pièce était un assez grand succès, on refaisait encore des dates parisiennes et l'autre partie partait en tournée. Et Bernard Farcy est parti en tournée avec, je crois, un autre acteur et tout le reste du casting est resté à Paris. Sauf qu'on s'est retrouvés sans rôle principal. Et puis, je sais pas, un soir, on va boire une bière après. On était au théâtre du Gymnase avec Vincent Moscato, avec Chantal, avec Chantal là-dessous. et je sais pas, je crois que j'avais bu 2-3 bières de trop. Et puis, je leur ai dit, mais c'est con, putain, pourquoi on ne demande pas à mon père ? T'imagines, il serait trop bon là-dedans. Et puis, Chantal m'avait dit, mais c'est génial. Et j'avais dit, mais non, Chantal, je déconne. Et elle me dit, mais moi, je déconne pas du tout. Il faut absolument prendre Bernard. Et du coup, voilà comment mon père s'est retrouvé à jouer avec moi.
Alors, c'est quand même extraordinaire parce que vous aviez tout juste 20 ans. Ouais. Donc, vous jouiez sur scène un texte cocasse, complètement fou.
Ah, j'étais complètement folle. J'adorais mon rôle. Elle était folle,
mais délicieusement hystérique. Et vous jouiez face à votre père qui était plus qu'un acteur, qui était un personnage multifacette qui menait plusieurs vies à la fois. Ça encore, c'était une expérience démente.
C'était génial parce que... en fait, je le martyrise, le père, dans la pièce de théâtre. Je suis infernale, je lui hurle dessus dans les oreilles, je suis chiante. Et du coup, vu que je ne vivais pas avec lui à l'époque, je vivais déjà de mon côté. C'était ma manière à moi de l'amour vache, quoi, de l'emmerder, oui, sur scène, oui, tous les soirs. Je me régalais à faire ça. Et puis, on a bien
même
fait de le faire.
Même dans les improvisations.
Ouais, il y avait beaucoup d'improvisation parce que le problème, c'est qu'on se connaissait par cœur. Donc, s'il y en a un qui commençait, l'autre répondait et c'était sans fin, quoi. Mais j'ai bien fait parce qu'au début, j'étais un peu partagée par cette idée de partager la scène avec lui parce que je me suis dit, oh, putain, encore une fois, quoi, la pression en me disant, oh, les gens, ils vont dire quoi, ils vont oublier le fait que je l'ai joué.
C'était une chose entre lui et vous.
Exactement. Et en fait, quand j'ai fait la balance dans ma tête entre ce que les gens auraient pu penser et ce que j'ai partagé avec mon père, ça faisait pas un pli, donc évidemment. Et heureusement que je l'ai fait parce que c'est la seule fois que j'ai partagé la scène avec lui, donc je regrette pas du tout.
Alors, on continue d'agiter un petit peu les souvenirs, chère Sophie. Sophie Tapie, pourquoi avez-vous refusé 3 fois de suite? J'ai appris ça. Pourquoi avez-vous refusé 3 fois de suite d'intégrer la Starac alors que vous avez accepté de participer à la 2e saison de The Voice dont vous aviez refusé la 1re édition?
Oui, alors la Starac, je crois que je l'ai refusée 2 fois. La première fois parce que j'étais trop jeune et que je ne sais pas pourquoi ils voulaient me prendre quand même alors que je n'avais pas 16 ans. Ça, c'était la première. Et la seconde, c'était un deal qu'on avait passé avec mes parents. Je ne sais plus ce que c'était, mais en gros, j'avais dû faire une connerie et j'avais été interdite de Starac. Je crois que je devais faire la 3e ou la 4e. Celle avec Grégory, je devais faire.
Et avec Grégory Lemarchal.
Ouais, qui est devenu un ami derrière. et je l'avais pas fait, voilà, parce que j'avais fait une connerie. Il me semble que je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais fait une connerie.
C'est chic quand même de se dire bon, elle a fait des bêtises, elle est privée de Starac.
C'est exactement ça.
Pas de la regarder devant l'écran, non, d'y participer.
Ouais.
Alors Sophie Tapie, de la même façon que à La Nouvelle Star sur M6, on avait demandé à Julien Doré d'abandonner son banjo, eh bien on vous a prié de venir à The Voice, vous allez nous dire si tout ça est vrai, sans le vôtre. Et on vous a annoncé que pour les primes, qui se faisaient devant chaque samedi soir à peu près 7 millions de téléspectateurs, il était hors de question que vous chantiez de la country. En fait, la production de The Voice est terriblement directive.
Ça dépend, ça dépend. Regardez, moi, dans ma saison...
Pourquoi était-elle avec vous ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, la country, il ne voulait pas. Et bon, je me suis retrouvée à chanter du Bruno Mars, rien à voir.
Et la grenade, c'est ça ?
La grenade, oui, exactement. Ouais. Ouais. Et au battle, je me suis retrouvée à faire un rap. Et après les lives, j'avais fait Johnny. Mais il me semble qu'il m'avait expliqué que si tout le monde avait le droit de faire de la guitare, il n'y aurait que ça, en fait. Et ça ne faisait pas 7 millions à l'époque, ça faisait 11 millions de téléspectateurs. Hein. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de faire non plus tout et n'importe quoi.
C'était... À l'époque, ça montait à 11 millions
ouais,
de téléspectateurs.
C'était énorme. C'était énorme, les audiences.
Alors, ce sont Louis Bertignac et Jennifer qui se sont retournés sur vous aux éditions à l'aveugle, donc. Qu'est-ce que vous a appris cette aventure qui vous sert encore aujourd'hui ?
Ça a été...
Vous avez choisi Jennifer, hein ? Vous avez pas, vous êtes pas partie avec Bertignac ?
Non. Non, non, je ne suis pas partie avec Bertignac parce que c'était vraiment pas, enfin, pas gentil de dire ça. C'était pas un choix de cœur, c'était un choix stratégique parce que Louis Bertignac, il avait 8 filles, un garçon. Voilà, et que j'ai appris ça et quelqu'un de la prod m'a soufflé que si il était moi, il irait chez Jennifer. Très honnêtement. Hein.
D'accord.
Que si ça se retournait, voilà. Que si ça se retournait, il fallait que j'aille plus vers
voilà,
Jennifer.
Voilà, de la stratégie en toute chose.
Exactement. Ouais. Choix que je n'ai pas regretté parce que j'aime beaucoup Jennifer. Mais ce que ça m'a appris à gérer la pression du prime face à autant de téléspectateurs.
Bien sûr. Ouais.
Ça c'est clair. Ouais, c'est surtout ça.
On a plus peur la toute première fois ou la deuxième fois ?
La première fois, parce que la première fois, il y a une pression énorme dans le sens où on passe
pour... Il se retourne ou il se retourne pas ?
Bah, c'est ça, quoi. On passe pour un con si ça se retourne pas. Donc, puis moi, j'allais pas passer inaperçu, comme d'habitude. Donc, j'avais énormément de pression.
Votre père était devant son poste ?
Ouais, et ma mère était dans la salle, avec mon frère.
Ah oui ?
Et ils ont pas compris pourquoi j'ai pris Jennifer. En fait, mon frère, j'ai eu un débrief après avec lui, et j'hésite longuement, en fait. Parce que j'ai le choix du cerveau et le choix du cœur, à ce moment-là. Et mon choix de cœur était Bertignac et mon choix de cerveau et stratégique était celui de Jennifer. Et donc j'hésite vraiment, mais eux, ils ne sont pas au courant de ce que j'ai entendu 10 minutes avant de rentrer. Et donc je mets vraiment beaucoup de temps à faire mon choix. Et mon frère me regardait l'air de dire, mais arrête ton cinéma, on sait très bien qui est-ce que tu vas choisir. Et quand je dis Jennifer, on voit à sa tête, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et du coup, voilà, c'est mais ma famille était là.
Voilà le dessous des cartes. Bon, Sophie Tapie, on l'a évoqué tout à l'heure, à la sortie de The Voice, où vraiment votre parcours avait été hyper prometteur, ben voilà, aucune majeure compagnie en France ne vous a accordé un rendez-vous. C'est un petit label québécois qui vous a proposé un contrat. Donc, vous êtes parti enregistrer à Montréal et vous avez posé vos valises à Montréal pendant quelques temps. Alors, il faut nous raconter l'aventure canadienne. Parce qu'en en fait, on accueille plus, nous, de chanteurs et de chanteuses canadiennes qu'on ne leur envoie d'artistes français, n'est-ce
ouais.
pas hein, ça se fait plutôt dans l'autre sens.
Ouais,
donc, Montréal, pourquoi y êtes-vous resté d'ailleurs ?
Parce que j'ai adoré, je ne sais pas. Je trouve que les Québécois ont toutes les qualités des Français, toutes les qualités des Américains, sans aucun défaut des deux.
Voilà.
ils ont ce génie musical, je trouve. On tape dans n'importe quel... coin de la ville, il n'y a que des chanteurs de fous. Il y a une espèce de liberté de pensée là-bas. Il y a aussi on sent que c'est vraiment ancré dans l'histoire, que le français, pour eux, c'est une langue tellement précieuse. C'est vraiment l'irréductible village gaulois, quoi. C'est au milieu de cette étendue anglo-saxonne.
Y a le mélange parfait entre le groove américain et les textes français.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, bon, bah, voilà, leur culture est énormément folk et énormément country aussi. Donc, je m'y suis retrouvée très rapidement.
Quand vous étiez au Canada, effectivement, bon, l'Amérique n'est pas loin. Alors, il paraît, je voudrais qu'on parle, on va faire une petite pause particulière sur un chapitre étonnant de votre histoire. Il paraît que vous avez passé je ne sais pas si c'est plusieurs jours ou plusieurs semaines, dans le Colorado, sur les terres de oui. celui qui a inspiré à Robert Redford le film fameux « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ». Donc vous étiez chez le chuchoteur le plus célèbre du monde,
Pat Parelli.
Pat Parelli, dont ouais. le ranch s'étend, paraît-il, à perte de vue, avec d'un côté les Rocheuses. Bon, ça a été une sorte de voyage initiatique.
Non, c'était bien après ça. Ça,
alors c'était quand ?
C'était après, c'est quand je suis revenue en France. Paris Match faisait des sujets d'été où ils sortaient des sportifs de leur sport pour leur faire essayer une autre facette de leur sport.
Alors donc, comme vous faites du jumping
exactement.
Et vous êtes une cavalière émérite, ils se sont dit tiens, on l'emmène chez...
Chez Pat Parelli pour Paris. Faire du cutting.
D'accord. Donc, alors expliquez-nous ce que c'est le cutting.
Alors le cutting, c'est un sport équestre américain qui consiste à ramener des vaches dans un troupeau. Alors, sans jamais toucher au cheval, c'est-à-dire c'est au cheval à le faire tout seul.
Voilà, c'est-à-dire ce que font les cow-boys classieux.
Exactement, et c'est exactement ça.
Avec les selles à pommeau étrusquin et
sûr.
La monte à la reine d'appui qui n'a rien à voir avec rien la monte avoir, avec les selles
mais surtout, on n'a pas le droit
anglaise.
Pour gagner des points dans ce genre de compétition, on n'a pas le droit de toucher aux rennes. C'est le cheval qui doit tout faire.
Mais il y a quand même la pression des jambes.
Non. Ça,
même
c'est
pas...
en amont. Non, ça, c'est en amont.
En amont.
C'est en amont, on lui apprend. Mais on n'a pas le droit de toucher au cheval. C'est le cheval qui va chercher la vache, le mouton, le bourriquet perdu et qui le ramène.
Il paraît que quand on vous avait donné des éperons, on vous a dit mais ils ne vont pas servir, hein. On ne s'en
exactement.
Sert pas des éperons.
Ouais.
C'est juste pour la photo, quoi.
Ce n'était pas pour la photo. C'est les éperons, c'est tout ce qui est en amont. C'est
l'apprentissage
en amont, mais on n'a pas le droit de les utiliser.
Bon, alors est-ce que vous étiez bonne dans le cutting, Sophie Tapie ?
Alors moi, c'est fou hein, parce que je monte à cheval depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Et c'est fou parce que ça faisait donc déjà plus de 20 ans que je montais à cheval. Et disons que toutes ces années d'équitation, on va dire que j'avais fini par mon expérience, ça aurait pu tenir sur un roman, on va dire. Puis quand je suis revenue, j'ai tout effacé, j'ai tout réécrit. Tout, tout.
Ça veut dire donc que vous avez continué d'appliquer les méthodes avec le cheval avec lequel vous faisiez du jumping, les méthodes qu'on vous avait enseignées dans ce ranch.
Ouais. Complètement.
Et j'imagine qu'autour de vous, on devait être très intrigués en France dans les haras.
Oui et non, parce que c'est une méthode en fait ce qu'on appelle œtologique, et il y a énormément de gens qui le font maintenant. Et moi, quand j'étais partie dans le Colorado pour voir Pat Parelli, il y avait le cheval de jumping d'une très très grande cavalière américaine qui était là parce qu'il s'était mis à avoir ce qu'on appelle dans le jargon équestre la phobie du bleu, donc c'est-à-dire peur des bidets, peur des rivières, peur de tout ce qui est bleu. Et elle l'avait envoyé en stage 3 mois pour qu'il lui fasse passer cette phobie du bleu.
Oui, parce que Pat Parelli, c'est une sorte aussi de psy
non, mais c'est un magicien.
Des chevaux.
C'est un magicien.
Il paraît qu'il déteste hein, qu'on dise que c'est un magicien.
Il déteste.
Mais il l'est.
En fait, ce que j'ai adoré, c'est que au début, j'étais censée rester 2-3 jours. Puis finalement, je suis restée 3 semaines. C'est-à-dire que Paris Match est reparti. Et puis moi,
vous êtes restée.
Moi, je suis restée. Il m'a un peu adoptée. Et c'était vraiment incroyable parce qu'il m'a expliqué que ça lui est venu. Lui, il gagnait sa vie en faisant du rodéo. Et sauf que les chevaux de rodéo, c'est des chevaux qui sont des âmes perdues derrière. C'est tellement traumatisant pour eux que c'est des chevaux irrécupérables. Et il a eu cette envie, cette empathie pour ces chevaux qui étaient des chevaux irrécupérables.
Ouais.
Et c'est grâce à ça qu'il a appris à récupérer n'importe quel cheval traumatisé.
Sophie Tapie, votre défi sur les Grands Prix amateurs élites, il paraît que c'était de sauter 1m30. Vous y êtes parvenue ?
Ouais, pas longtemps parce que malheureusement ma jument s'est cassée derrière. Mais oui, j'ai fait. J'ai réussi. J'ai réussi mon pari, c'était de faire de l'amateur élite et j'ai réussi. Ouais.
Alors, s'il n'avait pas fallu choisir entre vos deux passions, le chant avec les albums et puis des concerts à honorer, et bon, c'est une vie à part entière extrêmement prenante, et l'équitation en tant que compétitrice, je crois que votre rêve, ça aurait été de participer aux championnats de France, c'est ça ?
J'ai fait les championnats de France, mais pas au niveau que j'attendais.
Alors,
que,
vous les avez fait de quelle manière ?
Ben, je les ai fait, mais dans une catégorie. Je voulais les faire dans une autre. je voulais faire les pro 1, c'est-à-dire l'élite pro 1, pro élite, c'est-à-dire l'élite du cavalier en France. Mais déjà, j'ai jamais eu les chevaux et puis j'ai jamais eu le talent pour le faire parce que faut pas croire que c'est les chevaux qui sautent le cavalier. C'est vraiment c'est de l'orfèvrerie ce qu'il fait quand il monte sur ces hauteurs-là. Et tout simplement, j'avais pas le talent pour monter des épreuves pareilles.
Mais alors, ce n'est pas qu'une question de travail, de temps
non,
et de cheval,
non,
c'est un talent particulier.
J'ai vécu 4 ans avec un cavalier de haut niveau, je peux vous dire qu'il savait faire sauter une vache. Hein. Il s'appelle Raphaël Goers et vraiment, pour moi, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. Et j'ai partagé 4 ans de ma vie avec lui. C'était génial parce que moi, je rêvais de faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire de faire de sauter des épreuves Jeux Olympiques, quoi. Et lui, il rêvait de faire de la chanson. donc, il jouait du piano. C'était vraiment, voilà, son hobby, c'était de faire de la musique. Et son métier, c'était de faire du cheval. Et moi, c'était le contraire.
Et aujourd'hui, que fait-il ?
C'est un très grand cavalier. Et c'est encore un de mes meilleurs amis.
Chère Sophie, briser de toutes les manières possibles et imaginables, briser le déterminisme social pour s'extirper, on va dire, de sa condition de titi parisien, dont le papa était, paraît-il, ouvrier fraiseur et communiste, votre père, Bernard Tapie, a su le faire comme un modèle du genre dans les années 80, dans un pays, la France, où les autodidactes n'avaient pas vraiment le droit de sortir du rang. C'est le fait d'être entré en politique, en fait, qui a provoqué ses malheurs.
J'imagine.
C'est à partir de ce moment-là.
Je pense. Encore une fois, je vous dis, j'étais trop petite. Je ne peux pas avoir un point de vue là-dessus parce que je ne l'ai pas vraiment vécu. Je le vis au travers d'archives, en réalité. Mais je ne sais pas. Je pense que ça a été une décision qui a été pas très mûrement réfléchie, pour le coup. Et je pense que mon père fonctionnait un peu comme moi, c'est-à-dire au coup de cœur. Et je pense qu'il a eu un coup de foot pour Mitterrand.
C'est ça.
Et que voilà, quand on a un coup de foot pour quelqu'un, on l'a dans la tête, on l'a dans le cœur, et puis on ne l'a pas ailleurs, quoi. Donc, si ça n'avait pas été pour Mitterrand, je pense qu'il ne l'aurait jamais fait.
Mais François Mitterrand, donc, qui l'avait entraîné en politique, à l'époque où votre père venait d'acheter Adidas, l'une des 5 marques alors les plus célèbres au monde, Mitterrand, donc, lui répétait « on ne peut pas en même temps faire des affaires et de la politique ». Donc, votre père a obtempéré, il a donné un mandat au Crédit Lyonnais pour lui trouver un acheteur pour Adidas, et là, on peut dire que le piège, en fait, s'est refermé. Ça a été un piège.
Oui, j'imagine. Vous savez, j'ai encore rien compris à cette histoire.
Bon, on va pas entrer dans les considérations judiciaires, mais enfin, j'imagine que jusqu'au bout, votre père, il a espéré, malgré plus de 20 ans de bataille judiciaire, qu'il pourrait démontrer qu'il avait été victime d'une escroquerie en bande organisée, parce que
en fait,
ça a été une escroquerie en bande organisée.
Ce qu'il voulait, c'était sauver son honneur et que. Parce que cette espèce d'étiquette d'escroc lui a collé à la peau pour les 30 dernières années de sa vie. Et c'était ça, en fait, qu'il voulait. Ça, j'en suis consciente, je le sais. Ça, c'est un des seuls aspects de cette affaire dont laquelle je suis absolument certaine. C'est que, voilà, il voulait gagner ce procès pour laver son honneur et laver notre nom de famille. Ça, c'était primordial pour lui.
D'ailleurs, vous dites que en fait, la prison pour lui a été un plus gros traumatisme que la maladie.
Je pense. Ouais, je pense. Je pense parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait besoin d'être libre tout le temps. Et je pense que c'est très animal comme manière de vivre et de vivre sa vie. Et ce côté animal, il est complètement amputé quand on est dans une cage, quoi. C'est un lion dans une cage. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui l'a le plus marqué de toute sa vie, ça a été ça.
Bon, Sophie Tapie, vous n'êtes pas du tout l'aînée, vous êtes carrément la petite dernière. Vous avez choisi d'être une artiste, vous ne gérez aucun passif dans tout ça, vous êtes complètement, votre vie, elle est très, très, très loin de toutes ces préoccupations.
Ah ben, bien sûr. Moi, je veux dire, typiquement, ce que mon père m'a légué, et je le dis tout le temps, c'est le vice et le tournevis. C'est mon
Alors,
instinct.
Je sais que c'est votre formule comme un mantra, il faut nous expliquer.
C'est le vice et le tournevis, c'est-à-dire qu'il m'a donné son instinct et je vois de très très loin les gens malveillants, je les sens, et je me suis rarement fait avoir dans ce genre de piège. Et qu'au contraire, en revanche, j'arrive à, en général, très bien cerner les personnes bienveillantes et les personnes qui seront bien pour moi. Donc voilà, sur mes projets aussi, j'ai toujours un espèce d'instinct, j'ai toujours un avis, une voix intérieure qui me parle avant de faire quoi que ce soit, avant de mettre un pied devant l'autre. Et c'est ça qui m'a légué. En revanche, tout ce qui est des problèmes judiciaires qui sont encore là aujourd'hui, on est obligé de s'en mêler un peu parce qu'il y a ma mère dedans.
Mais c'est pour ça que je vous posais la question.
Bien sûr. Et
comment va-t-elle d'ailleurs, votre maman, qui a été la proie des paparazzi
qui a été
récemment.
La proie de tout, qui a été traînée dans la boue, qui a été... je ne me suis pas fait prier d'ailleurs pour répondre à la personne qui avait fait le papier sur elle dans Paris Match. Parce que, vous savez, moi, toute ma vie, j'ai eu l'habitude d'entendre des choses sur mon père. Donc c'est quelque chose... À la fin, je ne me battais même plus, ça ne sert à rien. ça glissait.
Mais vous avez eu le sentiment que soudain ça se déportait, ça et déportait qu'on sur ma mère. Votre mère.
Exactement. Et je veux dire, c'est tellement facile de s'en prendre à une veuve qui vient de perdre son mari après 50 ans de vie commune. Je trouve que il y a que l'être humain pour faire ça. Il y a vraiment que l'être humain. Moi, j'ai toujours dit que je préférais très souvent les animaux aux êtres humains. Ça, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas entendre, mais c'est quelque chose que j'assume mais pleinement. Les animaux font partie de notre vie, mais d'une manière un peu pathologique, je veux dire, avec ma mère.
D'ailleurs, il paraît que vous étiez désolée d'entendre si peu parler dans les programmes des politiques aux dernières présidentielles des animaux et de la place qu'ils ont dans la société.
Ben, ils n'en ont pas, du coup. Quand on voit le débat final de la présidentielle, on voit bien qu'ils n'en ont pas de place. Enfin, il y a énormément de gens qui aiment les animaux en France. On est un des pays d'Europe qui sont le plus fans des animaux. C'est dommage que les animaux n'aient pas leur place dans un débat. Même au niveau des lois, on est complètement... Enfin, je nous trouve complètement à la ramasse, quoi. Moi, je suis engagée enquêtrice à la SPA. Je suis avec ma mère et certaines personnes de ma famille. On est vraiment pathologiquement atteints par les animaux.
Revenons à votre histoire, à vous, Sophie Tapie. Votre saga familiale, elle est digne d'un roman, vraiment. Est-ce que la musique que vous aimez tant et à qui vous avez consacré votre vie entière, est-ce que la musique est un baume assez puissant pour chasser les mélancolies ?
Oui, c'est redondant, mais avec les animaux. Je pense que mes chiens sont vraiment mes antidépresseurs.
Oui, mais pas que. Pas que la musique.
Non, il faut qu'il y ait mes chiens. Il faut qu'il y ait mes chiens ou un animal quoi, tel qu'il soit. Quoi.
Et les chevaux.
Et les chevaux, évidemment.
Vous montez toujours beaucoup ou pas ?
Je ne monte plus, mes chevaux sont à la retraite.
Bon ?
Mes chevaux sont à la retraite.
Mais il n'est pas interdit de monter un autre cheval ?
J'ai l'impression de les tromper quand je fais ça. Non, et très honnêtement, je manque énormément de temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque, de ne plus pouvoir monter à cheval.
Est-ce que vous vivez en France ?
Je vis à moitié en France et à moitié à l'étranger.
Oui,
ouais. J'ai suivi mon mari en République dominicaine.
Alors, pour le coup, c'est très, très, très loin.
C'est très, 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 très loin.
Et comment vit-on en République dominicaine ?
On vit de tapas. Non, j'aime ce pays parce que c'est un pays en pleine expansion. Ils sont très accueillants, ils ont envie. On sent que c'est un pays qui a besoin de se développer, qui a envie de se développer et qui est ravi quand des étrangers viennent travailler. C'est hyper intéressant.
Sophie Tapie, alors avec le nouvel album augmenté de 4 titres baptisé 1988, Renaît de ses cendres, j'imagine que vous avez 1000 projets, des tournées, des scènes, des concerts, racontez-nous.
Alors le problème c'est qu'avec le Covid, les places sont chères pour des places de tournée, mais il va y en avoir cet été normalement, j'ai pas les dates exactes, parce que pour l'instant c'est très compliqué de se faire une place, on est beaucoup à vouloir tourner. En revanche, à la rentrée, normalement, je tourne un film avec Claude Lelouch. Donc ça, c'est cool.
Formidable, qui était mon invité devant ce micro la semaine dernière.
Ben voilà. Donc ça, je suis vraiment contente.
Et ça, c'est pour le deuxième volet de sa fameuse trilogie, n'est-ce pas ?
Normalement, oui.
Certainement.
Oui.
Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur le rôle ?
Absolument pas.
Absolument formidable, pas. Comme ça, on se reverra.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
Alors, c'est fantastique parce que vous avez quand même de sacrées vies en parallèle.
Mais quelle chance
des autres.
Mais quelle chance, parce que je me dis, quand on est artiste, on est béni, quoi, parce que on a l'opportunité d'avoir plusieurs cordes à son arc et de pas se lasser, parce qu'on peut faire 2 ans du théâtre, après 1 an de musique, après 1 an de cinéma, après de la télé. Enfin, on a tellement de chance parce que ça doit être. Enfin, moi, je me dis que ça doit être très dur de faire le même métier qui ressemble à. Enfin, que tous les jours ressemblent à tous les autres jours pendant 35 ans. Et vraiment, j'admire les gens qui font ça. Ce qui est le cas de 80% des gens. Hein. Mais là, je trouve qu'on est dans une époque quand même où on peut se permettre des choses. Là, j'ai une amie qui est instagrammeuse. Elle a repris ses études d'HEC, quoi, à 34 ans. Et je veux dire, c'est absolument génial. Ce genre de nana, je me dis, mais quelle paire de couilles, pardon, excusez-moi de l'expression, mais quelle paire de couilles, elle est bien, elle a je ne sais pas combien de centaines de milliers de followers, elle est confort dans sa vie, et elle se challenge à faire des études HEC, quoi. Pas n'importe quoi. Enfin, moi, je suis toujours très admirative de gens comme ça.
Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas craindre de reprendre en main son histoire.
Non.
Pour l'écrire différemment.
On n'en a qu'une.
Même
a qu'une.
Si c'est aventureux et mais au
bien
contraire,
sûr,
si c'est aventureux.
Il faut avoir plus de regrets que de remords, quoi.
Bien sûr.
Il faut tout tenter. Moi, j'ai toujours dit que si à un moment donné, il y a votre instinct qui vous dit ou qui vous dicte de faire quelque chose, il ne faut pas aller à l'encontre. Faut pas écouter son cerveau. Faut vraiment écouter ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a dans les veines, dans ce qui boue en soi, quoi. Moi, je suis plutôt de cette école-là, à suivre son instinct. On descend des animaux, hein. Il faut suivre ce qu'on a dedans, quoi.
Vous savez quoi, Sophie Tapie ?
Non.
Ne changez rien.
C'est gentil.
1988, Renaître ses cendres est à écouter en boucle, en montant le son. Allez, fort le volume. Merci infiniment de vous être
merci de m'avoir
livré
accueilli.
Si généreusement. Cash,
ouais,
voilà.
Je parle beaucoup. Hein.
Solaire, ne changez rien.
Merci.
Le voyage était épatant. À bientôt.
À bientôt.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.